Bonsoir à toutes et à tous. Le masque obligatoire dans tous les lieux publics clos à partir de lundi. Le taux de contamination repart à la hausse partout en France et notamment dans les régions côtières. Alors question, faudra-t-il reconfiner? Nous devons être prêts à toute opportunité, a lancé hier le Premier ministre Jean Castex. À Barcelone, la ville a décidé hier de reconfiner partiellement 4 millions d'habitants priés de rester chez eux et de ne pas quitter la ville, et ce, suite à des clusters incontrôlables. Le virus est bel et bien là, sur tout le territoire, et il circule. Alors, jusqu'où faut-il s'en inquiéter? Nos hôpitaux sont-ils prêts? Et nous, sommes-nous prêts à revivre un nouveau confinement, même partiel? C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Reconfinement, nous devons être prêts ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Lévy-Brulle. Vous êtes épidémiologiste, responsable de l'unité des infections respiratoires et vaccination à santé publique France. Karine Lacombe, vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Agnès Ricaribon, vous êtes urgentiste, chef du SAMU du Val-d'Oise et présidente de la Société française de médecine d'urgence. Et enfin Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci d'être là pour ce C'est dans l'air. Agnès Ricaribon, on commence avec vous. Que constatez-vous au SAMU? Est-ce que oui, les appels augmentent? Et est-ce qu'on peut dire que le SAMU, c'est important parce que c'est un peu le phare avancé de l'épidémie? Oui. Hein.
Alors, on constate effectivement une augmentation du nombre d'appels de patients Covid suspects, ce qui ne veut pas forcément dire Covid confirmé, puisqu'il peut y avoir des viroses aussi d'été. Mais il y a une augmentation des appels et on sait que lorsque l'augmentation des appels arrive au SAMU, l'hôpital est touché à peu près 10 jours après. Ah oui. Alors, à l'heure actuelle, c'est plutôt une augmentation des appels pour la médecine ambulatoire qu'on envoie aux médecins généralistes, aux médecins traitants, et pas trop sur ce deuxième indicateur qui est l'augmentation des transports vers l'hôpital. Il y a ces deux indicateurs-là qui sont très importants pour prévoir en fait la saturation, notamment des lits de réanimation dans les suites. Donc on surveille ces deux indicateurs comme l'huile sur le feu qu'on transmet à nos autorités tous les matins, le nombre d'appels au SAMU, le nombre d'appels Covid suspects et le nombre de transports vers les structures hospitalières.
Et donc oui, ça augmente dans le Val-d'Oise et partout en France.
Oui, voilà. Dans certaines régions, pas partout.
Pas partout.
Pas partout, dans certaines régions.
Un mot, est-ce qu'il y a beaucoup d'hypochondriaques en France? Est-ce que vous recevez beaucoup d'appels de gens persuadés qu'ils ont le Covid? Et donc, vous leur ordonnez des tests et en fait, il s'avère qu'ils ne l'ont pas.
Alors, on n'a pas tellement ça. On a eu au début des gens angoissés du fait, effectivement, de la communication, de la nouveauté de la maladie. Les personnes un petit peu angoissées sont plutôt maintenant, se tournent plutôt vers le médecin traitant. On a vraiment des patients qui ont des symptômes et on insiste vraiment pour que les patients qui ont des symptômes et même mineurs se tournent vers leur médecin traitant, se tournent vers le 15 s'ils ont des symptômes plus importants, mais s'ils n'ont pas accès à leur médecin traitant, parce qu'il est en vacances, il vaut mieux qu'ils appellent le 15. Et c'est à ce moment-là, nous, qui faisons un petit peu le tri, entre guillemets, sur est-ce que ce sont des symptômes de Covid, est-ce qu'il faut aller consulter, et surtout, aller se faire tester au moindre symptôme, parce que c'est comme ça qu'on va repérer les chaînes de contamination.
Alors, Jean-Paul Hamon, c'est le début des vacances. Que constatez-vous dans votre cabinet médical? Vous disiez, juste avant le début de l'émission, que les gens ne vous parlent que du Covid. Ils viennent pour un corps au pied, mais au bout de 2 secondes... On vous parle du Covid. Est-ce qu'ils vous demandent des tests, justement?
Oui, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui veulent se rendre dans des pays qui exigent un test négatif de moins de 3 jours. Donc, c'était le cas pour la Tunisie, mais qui a cessé de le demander pour le 1er juillet, venant de la France. Mais seulement, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent et qui veulent assurer le coup quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas de changement à arriver à la frontière. Et puis, le Maroc, qui l'exige pour les gens qui ont... ils exigent un test de moins de 3 jours. Et puis, il y a aussi les personnes qui vont voir leur famille, qui vont voir leurs grands-parents, leurs parents, et qui voudraient bien être certains de ne pas être contagieux. Donc, ça fait partie des choses qu'on fait. Mais alors, le problème, c'est que si vous passez devant un laboratoire maintenant, vous voyez des queues de 10, 15, 20, 30 personnes qui sont masquées et qui attendent pour faire des tests.
Et alors, Jean-Paul Hamon, quand les gens s'aperçoivent, donc ils ont le résultat, et vous leur dites, en fait, vous avez eu le Covid. Alors, c'est un secret de polichinelle, mais vous, c'était votre cas. Vous, à force de traiter des malades, vous avez fini par l'avoir, le Covid. Est-ce qu'on est soulagé? Est-ce qu'on se dit, du coup, mais moi, ça y est, je suis immunisé, je suis intouchable, je suis Superman face à cette maladie.
Alors, immunisé, il y en a ici qui vont peut-être dire ça.
Est-ce qu'on se sent comme ça
en... On se sent protégé, on sait qu'on est protégé quelques mois, on ne sait pas combien de temps et on ne sait pas à quel taux on est protégé. On n'en sait strictement rien actuellement. Hein. On a parlé d'immunité croisée, on a parlé d'immunité même avec des immunoglobulines qui sont absentes et on serait immunisé quand même. Alors là, il va falloir qu'on m'explique comment, mais...
A priori, vous vous sentez immunisé. Et les patients qui ont été testés positifs et qui se portent bien sont plutôt soulagés quand vous leur annoncez, donc.
Oui, ça, bien sûr, mais il y en a qui sont, alors là où on parlait des hypochondriaques tout à l'heure, j'en ai une qui a fait Covid, qui a des immunoglobulines et qui était encore angoissée à l'idée d'avoir des immunoglobulines. Alors là, je ne savais pas comment la calmer.
Ça veut dire quoi, les immunoglobulines?
Elle était immunisée, elle avait un taux d'immunité, et donc celle-là, je ne savais pas comment la calmer.
Voilà, alors si on est angoissé, s'il y a des hypochondriaques, c'est pas les hypochondriaques, écoutez, c'est quand même une maladie sérieuse qui a fait plus de 30 000 morts. Daniel Lévy-Brulle, on a des chiffres qui montrent, alors c'est ce fameux R0, vous allez nous réexpliquer ce que c'est, on va voir la courbe. On voit bien, en tous les cas, que ce taux de reproduction du Covid est passé, on le voit, de 0,84 à 1,18. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ce paramètre, c'est un paramètre que les épidémiologistes utilisent depuis toujours pour essayer d'évaluer la dynamique épidémique de circulation d'un virus ou d'une bactérie. Qu'est-ce que ça représente ? C'est une notion finalement assez simple, c'est le nombre moyen de personnes qu'un malade va contaminer. Et on comprend bien que si chaque malade contamine en moyenne une personne, il y aura dans le temps toujours le même nombre de cas. Si par contre un malade contamine plus d'une personne, il va être remplacé par plus que lui-même, et donc il va y avoir peut-être, alors si c'est deux, ça veut dire que moi malade, je vais contaminer deux personnes, mais chacune de ces deux personnes vont contaminer deux autres, et c'est la fameuse expansion de nature exponentielle, 1, 2, 4, etc.
Donc au-delà de 1, la maladie 7 ans,
exactement.
En dessous de 1,
elle
régresse.
Est constante, et au-dessous de 1, petit à petit, chaque cas est remplacé par moins d'un cas, entre guillemets, d'accord. Et au bout d'un certain temps, il n'y a plus de cas.
Donc là, ce n'est pas bon.
Alors, c'est une moyenne, bien entendu, ça ne reflète pas l'état de circulation du virus partout. Il faut même avoir à l'esprit que même quand on dit que dans une région, le R, ce fameux R, est supérieur à 1, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, mais quelquefois, c'est quelque chose de très local, parce que quand on est dans une situation comme aujourd'hui, où finalement le virus circule peu, il suffit qu'il y ait un cluster quelque part, un cluster d'une certaine importance, un foyer, des cas groupés, pour que tout d'un coup ça fasse augmenter le nombre de cas dans la région. Et donc il ne faut pas penser que même si on dit par exemple qu'en Bretagne, le R est au-dessus de 2, ça ne veut pas dire que toute la Bretagne est pleine de virus. Pour nous, on utilise ça comme une alerte. Quand on voit que le R est supérieur à 1, on se dit qu'il se passe quelque chose. Ça peut être au niveau d'un département, donc on va regarder les différents départements, on va voir celui dans lequel le R est supérieur à 1, mais ça ne veut pas dire là aussi que tout le département est rempli de virus. Souvent, on va descendre jusqu'à trouver le petit foyer dans lequel il y a une augmentation de cas qui a fait que ce R a dépassé 1 au niveau du département et de la région.
Donc Karine Lacombe, on croyait s'être bien confiné, voilà, on avait fait ce qu'il fallait, en fait on s'aperçoit que ça n'est pas fini, ça ne sera jamais fini, cette histoire de virus. D'ailleurs, Jean Castex l'a dit hier soir, nous devons être prêts, il parlait du reconfinement.
Oui, alors le confinement a tout de même eu un effet extrêmement positif puisqu'il a permis de casser la dynamique de l'épidémie. On a bien vu, quand on est sorti du confinement, on avait ce fameux R qui était bien inférieur à 1. Mais on savait également que le virus n'avait pas disparu.
Il y a toujours des braises prêtes à repartir.
Il y avait tout le temps, le virus était tout le temps là, avec, même si on avait de moins en moins de cas, il y avait quand même des cas. Donc c'est évident que quand on allège les procédures de confinement et justement quand on déconfine et qu'on n'a pas non plus une application à 100% des gestes barrières, eh bien le virus continue de circuler à bas bruit. Tant qu'on le maintient en circulation à bas bruit et qu'il n'entraîne pas une augmentation des hospitalisations et des passages en réanimation, on peut dire qu'on vit quelque part dans un milieu où le virus va circuler. Si on peut accompagner les choses de cette façon-là, ce serait l'idéal. On voit qu'effectivement, il y a eu à un moment donné des gestes barrières qui ont été moins bien appliqués. Et puis surtout, un virus qui a circulé dans des régions où le confinement a empêché qu'il y ait une première vague. première vague qu'on a vue dans le Grand Est, qu'on a vue à Paris, on voit bien que la plupart des régions, particulièrement l'Aquitaine, a été complètement épargnée.
On peut voir la carte, on va la voir effectivement. On s'aperçoit que les régions touchées aujourd'hui sont celles qui avaient été épargnées en mars-avril, c'est les régions côtières, voilà.
Exactement.
On voit très bien. La Bretagne, la Provence.
Absolument.
Et également le sud-ouest.
Donc tout l'enjeu va être que ces zones dans lesquelles le R a beaucoup augmenté ces derniers temps ne deviennent pas des zones très endémiques comme nous on a eu, enfin épidémiques même, comme nous on a eu en Île-de-France et dans le Grand Est.
Alors c'est un appel à davantage de vigilance qu'a lancé hier soir le Premier ministre Jean Castex. Vigilance face à des signaux faibles mais significatifs de reprise de l'épidémie dans plusieurs régions de l'Ouest notamment. Les Français qui prennent le chemin des vacances entendront-ils ce message de prévention? Sujet d'Émilien David, Julien Launay et Aubry Perrault.
Billets dans une main, valise dans l'autre et surtout masque sur le visage. 1 million de voyageurs sont attendus dans les gares parisiennes pour ce grand week-end de départ en vacances.
Moi, je vais partir comme d'habitude à la montagne. Voilà.
On fait attention à aller dans des endroits où les gens sont respectueux des gestes barrières.
Gestes barrières, coronavirus, des contraintes avec lesquelles il faut désormais composer, même pendant les vacances. Dans les gares et dans les trains, le port du masque est obligatoire. En visite hier à la gare de Lyon, le ministre délégué au transport le confirme. Il va falloir s'y habituer.
L'objet, c'est d'apprendre à vivre avec le virus, d'apprendre à se déplacer avec le virus, d'apprendre à travailler et à partir en vacances avec le virus pour pouvoir se déplacer et minimiser le risque sanitaire dans un contexte où, vous le savez, il y a encore ici et là du virus qui circule, des clusters qui parfois peuvent se réactiver quelque peu. Donc il faut être très vigilant.
Ce grand départ en vacances est une période sous surveillance. Le mélange de populations accentue les risques de propagation de l'épidémie. Et aujourd'hui, les indicateurs ne sont pas bons. Le taux de reproduction du virus repart à la hausse dans certaines régions. Il est particulièrement élevé à La Réunion, en PACA et surtout en Bretagne, où chaque cas positif contamine en théorie 2,6 personnes. Rien d'alarmant selon les autorités sanitaires, mais le gouvernement appelle à la prudence.
Il faut faire attention, il faut être vigilant. Voilà. On n'est pas dans une situation grave, mais c'est une situation qui appelle plus de vigilance et que je suis au jour le jour.
Prudent, certains départements particulièrement concernés réagissent. La préfecture du Finistère a imposé cette semaine le port du masque sur les marchés de 32 communes de ce département très touristique, comme ici à Morlaix.
Je trouve que c'est logique, hein, et c'est normal. Vu ce qui se passe à l'heure actuelle, on aurait même dû le rendre obligatoire tout le temps.
Et en Mayenne, où le seuil d'alerte a été dépassé, le masque est obligatoire depuis hier soir dans tous les lieux clos recevant du public. Les mesures sanitaires se renforcent également dans les aéroports, comme ici à Toulouse. Les voyageurs en provenance de pays à risque sont invités à se faire dépister.
Dans la cabine que vous voyez là, protégée des regards, l'infirmière spécialisée que nous avons aussi dans nos équipes qui va opérer le test.
Si ici le dépistage ne se fait que sur la base du volontariat, certaines compagnies aériennes comme Royal Air Maroc vont plus loin. Un test PCR est obligatoire pour monter dans l'avion. Une exigence si répandue qu'il est désormais difficile de prendre rendez-vous dans les laboratoires d'analyse d'Île-de-France.
C'est la galère pour prendre rendez-vous. Il faut en appeler plein, il n'y en a pas beaucoup qui répondent. Les délais, c'est 10 jours.
Depuis la réouverture des frontières et depuis cette exigence, le nombre de personnes a nettement augmenté. Ça représente, je dirais, les 2/3 de l'activité actuellement.
Les vacanciers étroitement surveillés pendant leur voyage restent-ils vigilants une fois arrivés à destination? Pas toujours. À Chamonix, l'air frais et la quiétude de la montagne font oublier à certains la crise sanitaire.
Je pense qu'à la campagne, ce n'est pas nécessaire de porter un masque. Je sais que ce n'est pas bien, mais j'ai l'impression que ce n'est pas dangereux, surtout ici, à la montagne.
Je pense qu'on en a... Ouais. Je pense qu'on les respecte, les gestes barrières, mais pas totalement, et qu'on devrait un peu plus faire attention. Et je pense qu'on le fait plus quand on est dans notre quotidien à nous et pas en vacances, quoi.
Des vacanciers, disons, étourdis, mais rappelés à l'ordre dans les commerces. Dans ce magasin de sport, le port du masque est obligatoire et le gérant ne transige pas avec la règle.
Je pense qu'il vaut mieux refuser une vente plutôt que prendre un risque. Mais encore une fois, je pense qu'on a, depuis qu'on est déconfiné, on n'a jamais eu aucun souci avec nos clients. Voilà. Je pense que si on explique comme il faut les choses, si on demande de le faire, ben, tout marche très bien, c'est tout.
Selon les professionnels du tourisme, la saison démarre bien. Mais la crise sanitaire rend les Français indécis. 7 millions d'entre eux ne savent pas encore s'ils partiront en vacances cet été.
Alors, question téléspectateur. Le discours gouvernemental n'est-il pas destiné à préparer l'opinion à une inéluctable seconde vague ? Daniel Lévy-Brulle, après une première vague, forcément en termes d'épidémie, il y a une seconde vague ?
Ce qui est presque certain, c'est que si on ne continue pas à appliquer des mesures barrières, de distanciation sociale, d'identification très précoce des cas pour les mettre en quarantaine, pour rechercher leurs contacts, il y aura une seconde vague. Mais elle n'est pas inéluctable parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de l'éviter. Certes, ces moyens, ils sont très contraignants.
C'est-à-dire ?
C'est ce qu'on a rappelé. Ce sont les mesures barrières qu'il faut, dans son quotidien, continuer à appliquer, qu'on soit chez soi, qu'on soit sur un lieu de vacances. Bien sûr que c'est une restriction qu'on aurait envie d'avoir derrière nous, parce qu'on a tous souffert de ces mois, malheureusement.
Le geste barrière numéro un, c'est le masque.
Le geste barrière, je ne veux pas les ordonner, parce que ça pourrait donner l'impression que certains sont importants, d'autres pas. Le masque, il est important. La distanciation physique, le fameux mètre de distance, il est également très important. Se laver les mains, c'est également important, parce qu'on peut avoir du virus sur les mains. Donc voilà, il faut malheureusement garder à l'esprit que tous ces gestes de barrière doivent continuer à être appliqués, parce que la deuxième vague n'est pas certaine, mais la menace de la deuxième vague, elle est certaine.
Karine Lacombe, porter un masque, c'est quand même très contraignant. Alors, il y a ce sondage BVA qui dit que 85% des Français sont favorables au port du masque obligatoire. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'aux sanctions au risque d'infantiliser les Français ? C'est le reproche qu'on a fait au gouvernement. Et je dis ça parce qu'on sait que, alors, autant à la SNCF, c'est bien appliqué, mais dans les bus, il y a pas mal de tensions avec des jeux entre les gens.
C'est compliqué le bus. Hein.
Oui.
C'est compliqué. Enfin, de toute façon, le masque, ce n'est pas quelque chose de naturel, en tout cas pour nous Français. On voit bien que c'est très différent de la culture asiatique, par exemple. Donc, c'est pour ça que rendre obligatoire le masque dans toutes circonstances, de façon très coercitive, ne va pas emmener l'adhésion de toute la population. Ce d'autant qu'on ne s'inscrit pas sur 15 jours ou un mois, mais on s'inscrit sur plusieurs mois, voire peut-être au moins un an jusqu'à l'année prochaine, 2021, quand on, peut-être si on a un vaccin et puis si on voit que l'épidémie de coronavirus est impactée par l'épidémie de la grippe, par exemple. Donc on ne sait pas comment on va évaluer la dynamique de l'épidémie. Donc dans tous les cas, on s'inscrit dans la durée. Pour s'inscrire dans la durée, il faut pouvoir offrir à la population des mesures qu'elles peuvent s'approprier. Je crois que l'éducation à la santé est extrêmement importante. Et dans ce cadre-là, par exemple, toute l'information qu'on peut donner au gouvernement, comme on a fait, nous, professionnels, qui sommes vraiment sur le terrain et qui saisissons de façon très précoce les signaux, avons bien vu qu'il y avait une incompréhension sur le port du masque, avec des magasins qui imposaient le port du masque, d'autres qui ne l'imposaient pas, et puis des tensions entre les gens. Et c'est pour ça que le week-end dernier, on a été plusieurs à signer des tribunes pour rendre le port du masque obligatoire dans ce qui nous semblait être le plus facile à appliquer.
C'était un lieu clos fermé, c'est ce que disait Daniel Lévy-Brulle pendant le reportage. Au fond, nous devrions porter le masque. Est-ce que Jean Castex, quand il dit qu'il faut porter le masque, il est dans un lieu clos fermé, il n'a lui-même pas de masque ? C'est pas facile, hein, finalement.
Ah, c'est facile évident pour les autres. C'est pas facile. Ouais. Après, il y a aussi le fait, par exemple, nous, on est quand même à une distance respectable. On est dans un lieu qui est ventilé, dans un lieu où il y a du volume de l'air. Quand on est dans un petit magasin, dans un supermarché, où tout le monde est les uns contre les autres, avec de l'air qui n'est pas forcément ventilé, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte.
Jean-Paul Hamon, on a vu dans le reportage une jeune fille dire « autant, c'est vrai, on arrive à être sérieux l'année quand on est dans son quotidien, quand on est en vacances, on l'est moins. » D'autant qu'on nous avait plus ou moins expliqué que ce virus, avec l'été, il allait disparaître comme la grippe. Est-ce que le caractère vacances explique aussi en partie que ce R0 reparte à la hausse ?
Oui, ça explique beaucoup de choses. Vous savez, les gens que vous avez vus, ce sont des gens jeunes. Ils ont été confinés pendant deux mois et demi. Ils sont jeunes, ils ont dû avoir des enfants en bas âge. Ils ont dû avoir en plus des gamins de 2 ans, 5 ans dans les jambes pendant qu'ils faisaient leur télétravail. Tout ça, ils ont envie un peu d'oublier ça. Moi, ce qui me tracasse beaucoup, c'est ce qui se passe actuellement en Mayenne avec cette personne positive qui a été identifiée. Et on a identifié 6 cas contacts.
Alors justement, pourquoi la Mayenne?
Ils ont identifié 6 cas contacts et donc ils ont été contactés. Il n'y a que 2 cas contacts qui ont accepté de se faire tester, 4 autres qui ont refusé de se faire tester et qui sont allés au travail. On n'a aucun moyen. Alors cela, à part une grave de cerveau, parce que vraiment, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là refusent le test et vont travailler en risquant de contaminer les gens, nous n'avons aucun moyen coercitif contre ces personnes qui peuvent contaminer et faire en sorte que la contagion s'étende. C'est ça qui est absolument invraisemblable. J'étais avec Luc Duquesnel, qui est le médecin qui avait organisé les 8 centres Covid en Mayenne et qui était furieux parce que l'ARS avait supprimé ces centres Covid le 25 juin et les a fermés le 1er juillet alors que la situation est en train de s'étendre. Et lui, il me dit, mais on n'a aucun moyen. Secret professionnel nous bloque et il n'y a aucun moyen coercitif contre ces gens qui sont totalement irresponsables, qui peuvent être contagieux et transmettre la maladie. Voilà, c'est ça qui me tracasse beaucoup. Plus que ces personnes qui sont en vacances, qui ont l'air quand même assez raisonnables et qui maintiennent des mesures barrières, des distances au moins.
Agnès Ricaribon.
Oui, je crois qu'il faut qu'on fasse de la pédagogie vers différents publics avec des méthodes pédagogiques un peu différentes et notamment sur les jeunes. On n'a peut-être pas aussi utilisé assez les réseaux des jeunes pour leur faire comprendre qu'ils peuvent être touchés. Ils peuvent être touchés à double titre. Ils se sentent moins concernés et pour autant, ils peuvent d'une part contaminer leur famille. On voit les clusters dans des familles élargies et ils sont touchés à un autre double titre qui est que la crise sanitaire provoque une crise économique et ils vont être les premiers à être impactés par cette crise économique sur le marché de l'emploi. Ils n'ont pas forcément cette conscience-là. Nous, on voit au niveau des appels centre 15 que la population est un peu plus jeune. Celle qui appelle est un peu plus jeune que celle qu'on avait lors de la première vague. Et donc, il y a des contaminations
parce
plus jeunes.
Parce que protégées de par leur jeunesse.
Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait vrai. Ils ont été confinés pendant 2 mois et demi. Ils ont envie d'en profiter et c'est normal. Et il faut que les mesures barrières que l'on propose emportent l'adhésion des jeunes. Donc, que ce ne soit pas trop strict quand le risque est faible, comme l'extérieur. Mais par contre, quand le risque est élevé et qu'il y a un vrai bénéfice à appliquer le masque et les mesures barrières, comme les milieux clos, et ben qu'on communique vraiment sur les canaux. J'ai demandé à mes fils, j'ai 3 fils,
ouais, sur les
comment
réseaux
on
sociaux,
pourrait
quoi.
Faire. Voilà, Netflix, les messages qui passent sur Netflix, sur YouTube. On n'a peut-être pas assez différencié les canaux de communication et les messages pédagogique en fonction des populations que l'on souhaite atteindre.
Karine Lacombe, on va revoir peut-être la carte de France du Covid. On s'aperçoit que la Provence, par exemple, qui se croyait un petit peu, qui de Marseille était la ville qui avait été épargnée en avril-mai, aujourd'hui on voit qu'elle est rattrapée par le Covid. Est-ce que au fond, comment ça s'explique? Et est-ce que le respect des gestes barrières est le même partout en France ou est-ce qu'il y a des régions qui... Vous voyez le sens de ma question, l'applique plus ou moins.
Peut-être qu'avec le soleil et la Dolce Vita sur la Côte d'Azur, c'est plus difficile de mettre en place les gestes barrières, d'éviter les embrassades, les poignées de main, de porter le masque quand il fait très chaud. Il y a peut-être aussi un facteur qui est assez prégnant pour la région PACA, c'est le retour de beaucoup de personnes de l'étranger, en particulier du pourtour de la Méditerranée. Et on sait, par exemple, nous, à Paris, mais ça a été aussi le cas dans plusieurs grandes villes sur le territoire national.
Beaucoup de coronavirus importés. Hein.
Exactement, beaucoup de cas de coronavirus importés. Et je pense que ça a probablement dû jouer dans une certaine mesure.
Est-ce qu'on sait tout, Daniel Lévy-Brulle, sur ce virus? Non, malheureusement, on ne sait pas tout. Mais notamment le fait qu'il puisse se propager par l'air. Est-ce que ça serait... Est-ce que c'est une piste sérieuse et, est-ce que c'est inquiétant? Et ça veut dire quoi?
Oui. Il faut bien s'entendre sur les mots, parce que qu'il se propage par l'air, c'est clair. Mais en fait, il y a 2 types de propagation. Il y a une propagation à courte distance, avec ce qu'on appelle des grosses gouttelettes, qui vont tomber très rapidement, parce qu'elles sont tellement lourdes qu'elles ne peuvent pas rester en suspension dans l'air. Et ça, c'est avéré. Hein, c'est ce qu'on pensait d'ailleurs être la voie pratiquement unique de transmission. Et puis aujourd'hui, on se pose la question d'un autre mode de transmission, mais en fait, il y a tout un continuum, qui est qu'il y aura aussi des petites gouttelettes légères qui, elles, pourraient rester dans l'air et ne pas tomber immédiatement. C'est probable. Et ça remettrait un petit peu en cause le fait qu'un mètre, 1,50 m, ça suffit pour se protéger. aujourd'hui, on n'a pas de données pour conclure que c'est une voie de transmission importante sur le plan épidémiologique. On le verrait si effectivement on pouvait être contaminé comme ça à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Ça doit exister, mais ça reste probablement l'exception.
Alors vous, on parlait tout à l'heure de l'importance des gestes barrières, on parlait de l'importance du masque. Il y a aussi, on nous dit beaucoup, et c'est l'OMS qui nous dit, il faut tester, tester, tester.
Oui.
Alors on sait qu'on voit les files d'attente, on nous dit que c'est douloureux. Pourquoi, Jean Castex en a parlé hier, des tests salivaires, ce serait une avancée qui permettrait d'être bien plus efficace dans la lutte contre l'épidémie?
Alors c'est sûr que ça serait une avancée, c'est sûr qu'en termes de facilité d'accès, de confort pour le patient, ça serait un plus. C'est quelque chose qui est en train d'être étudié. Pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de garanties sur la qualité de ces tests, c'est-à-dire c'est bien beau d'avoir des tests, mais il faut qu'ils soient fiables, c'est-à-dire il faut que quand le virus est là, il le détecte, et quand le virus n'est pas là, ils ne disent pas à tort qu'il est là. Donc il y a des travaux qui sont en cours. Ce n'est pas très facile aussi de systématiser la méthode de détection et d'être sûr que le prélèvement sera fait de manière correcte. Donc voilà, c'est un espoir, c'est un petit peu tôt pour le diffuser parce qu'on ne maîtrise pas encore bien cette technique, mais effectivement, ça serait un progrès. En tout cas, pour revenir à ce que, si vous permettez, à ce que vous avez dit tout à l'heure, certes, les contacts ne se font pas tous dépister, mais on est aussi inquiet du fait que les cas symptomatiques ne se font pas dépister. Alors, quand je dis les cas, c'est des gens qui présentent des symptômes qui évoquent...
Et qui font l'autruche.
Et on a des données qui montrent que moins de 20% des personnes qui ont des signes évocateurs de l'infection par ce virus vont se faire tester. Et ça, c'est vraiment très préoccupant parce que, je ne dis pas que tous ces gens sont porteurs du virus, mais parmi eux, il y en a qui sont porteurs du virus.
Les signes évocateurs qui montrent qu'on a le virus, c'est quoi? Vous nous les rappelez?
Ça va dépendre. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce qu'il y a toute une gamme, depuis une manifestation assez bénigne qui ressemble à un petit syndrome grippal, un peu de fièvre, un peu de tout, avec des symptômes beaucoup plus graves, avec des gens qui ont du mal à respirer. Et là, bien entendu, le recours aux soins va être plus important. Mais ce ne sont pas forcément des gens plus contagieux. Et donc, nous, en tant qu'épidémiologistes, à la différence des cliniciens, ouais, on est autant intéressé à ce que la personne qui a juste un peu de fièvre et un peu de toux aille se faire tester que la personne qui va très mal, elle, de toute façon, ne se fait pas de soucis, elle va l'être. Mais l'autre, elle va peut-être rester chez elle, elle va peut-être continuer sa vie sociale et elle va contaminer
son entourage. Il y a les asymptomatiques, ceux qui ont le Covid, qui le transmettent et qui n'en ont aucune idée, aucun symptôme.
Voilà, alors,
ça, c'est beaucoup les jeunes.
Alors, ce n'est pas forcément beaucoup les enfants, mais entre l'adulte jeune et l'adulte plus âgé, il n'y a pas forcément de différence. Cela, bien entendu, il nous pose problème. Et c'est vrai que les stratégies de dépistage qui sont mises en œuvre autour des cas, et en particulier autour des clusters, ont comme principal objectif d'identifier les gens qui ne peuvent pas être identifiés sur la base de leurs symptômes, qui sont déjà asymptomatiques. Et c'est pour ça qu'on invite très largement, quand il y a des clusters, la population à se faire dépister pour pouvoir identifier ces asymptomatiques qui, eux aussi, peuvent contaminer.
Justement, sur ces clusters qui apparaissent là, en ce mois de juillet, Agnès Ricaribon, est-ce qu'on a une idée du profil? Est-ce que ce sont les mêmes profils que ceux qui ont été touchés en avril-mai, par exemple en Bretagne, ou est-ce que ce sont des touristes
Je vais parler sous contrôle de mon voisin, mais on a différents types de clusters. Il y a un certain nombre de clusters famille élargie. Il y a des clusters
famille
élargie, c'est
les grands-parents,
regroupements familiaux. Il y a un certain nombre de clusters qui sont dans des milieux professionnels et en particulier aussi dans les personnes les communautés vulnérables. Et ce que je voulais dire, c'est dans on regarde par ville quand même ce fameux taux d'incidence, et quand il y a un taux d'incidence qui augmente par ville, c'est à ce moment-là que l'ARS va programmer des campagnes de dépistage.
Les Barnums,
les Barnums, exactement. Nous, on est parfois en appui avec les associatifs pour aider à ce dépistage grand public, pour justement repérer les personnes asymptomatiques. Donc, on regarde, et c'est là où le SAMU Centre 15 peut aussi, par la géolocalisation des patients symptomatiques, être peut-être un peu en amont et ne pas perdre 24-48 heures d'attente des résultats positif, pouvoir alerter précocement sur cette géolocalisation des symptômes pour dire attention, il se passe quelque chose dans cette commune-là.
Est-ce que vous trouvez que les gens, d'une façon générale, se prêtent de bonne grâce à tous ces tests, etc., ou est-ce qu'il faudrait par moment être un peu plus coercitif, parce que comme vous le disiez, il en va de l'avenir de la jeunesse, etc. Est-ce qu'il faudrait mettre quelques amendes pour les refus de masques, et est-ce qu'il faudrait être plus ferme quant à la nécessité de se faire dépister quand on a des symptômes qui visiblement montrent qu'on a l'épidémie.
Alors, on a la majorité, c'est prête, on veut, on a envie d'être dépisté. Mais on a effectivement, et au téléphone, quand on leur propose le test, ils nous disent je veux pas être reconfiné, je veux pas, je perds de perdre mon job, et qui veulent pas. Et à ce moment-là, on leur dit mais
c'est la quatorzaine qui est un frein.
Oui.
Être 14 jours chez moi. Quoi.
Voilà. Encore, exactement.
Il y a des contrôles ou pas? On reste 14 jours chez soi.
Je ne sais pas s'il y a des contrôles. En tout cas, on fait beaucoup de pédagogie pour emporter l'adhésion. Parce que c'est surtout, nous, on croit plus à l'adhésion qu'à la méthode coercitive. Néanmoins, on n'arrive pas à convaincre tout le monde, ça c'est sûr.
Alors, les craintes d'un rebond de l'épidémie ne concernent pas que la France. Un peu partout en Europe, hein, les États s'inquiètent de perdre le contrôle de la situation sanitaire en plein été. Et c'est le cas notamment à Barcelone. Barcelone qui a décidé hier de reconfiner partiellement toute la ville. Myriam Zéhar et Nicolas Baudry-Dasson font le point sur les régions européennes les plus touchées par l'épidémie.
À Barcelone, la vie semble suivre son cours. Pourtant, hier, les autorités ont appelé les 4 millions d'habitants de l'agglomération à rester chez eux. Une mesure de précaution pour éviter un nouveau confinement obligatoire face au rebond des cas de Covid-19.
Si les gens avaient fait tout ce qui était recommandé, nous n'en serions pas arrivés là. Et je pense que cela ne sera pas résolu tant qu'il n'y aura pas un nouveau confinement. Car ce que je vois, c'est que nous sommes revenus à la situation du mois de mars et que tout est hors de contrôle.
Je pense que d'une certaine manière, les gens sont tellement optimistes qu'ils pensent que cela n'existe pas.
Le gouvernement catalan a donc émis de nouvelles restrictions hier en conférence de presse. Les mesures devraient durer 2 semaines.
Une des premières mesures concrètes est d'interdire les réunions de plus de 10 personnes dans l'espace privé ainsi que public. C'est le principal message que nous devons faire passer aux citoyens. Éviter toute réunion sociale qui sont la plus grande source de transmission.
Les cinémas, théâtres et discothèques doivent fermer leurs portes. Les bars et restaurants ne peuvent fonctionner qu'à 50% de leur capacité. La Catalogne avait déjà ordonné mercredi le reconfinement de près de 250 000 personnes dans la province de Lérida et le port du masque obligatoire sur la voie publique. 150 foyers de contagion seraient surveillés par le gouvernement espagnol qui regarde également vers les Baléares. À Majorque, les images de touristes éméchés, sans masque et ne respectant pas les mesures de sécurité ont poussé les autorités à fermer plusieurs bars de nuit, ce qui en déçoit certains.
Ce n'est pas agréable de voir tout le monde porter un masque. Pourquoi tout ça? Je n'ai pas la réponse. Les virologues veulent juste se faire de l'argent.
En Europe, plusieurs villes ou régions se sont reconfinées. La Catalogne, mais aussi Leicester en Angleterre ou encore la banlieue de Lisbonne. Comme ici à Lourès, où depuis le 1er juillet, les habitants, souvent les plus démunis, ont retrouvé l'espace réduit de leur appartement.
Si on est obligé de rester confiné dans notre quartier, trouvez-nous des activités et des aides. Premièrement, de l'aide alimentaire et ensuite, stopper les paiements de factures que l'on doit faire tous les mois. Car vous savez bien que l'on ne peut pas travailler pour gagner cet argent. Si on ne peut pas travailler, on ne peut pas payer.
Reconfiner des quartiers. L'Allemagne l'a fait elle aussi. Comme ici dans le sud du pays, fin juin. Des barrières ont même été installées pour dissuader les résidents de sortir. Une majorité de travailleurs immigrés d'un abattoir de la région.
Quand on rentre à la maison après le travail, on se retrouve à 5, 8, 15 personnes entassées dans un salon. Le problème ne vient pas de l'abattoir.
Un confinement globalement bien compris selon la municipalité. Berlin a d'ailleurs annoncé cette semaine que face à une seconde vague, des autorisations de sortie et d'entrée pourraient être instaurées au niveau local. En Irlande aussi, la résurgence du virus inquiète. La dernière phase du déconfinement annoncée le 13 juillet a été repoussée au 10 août. L'ouverture complète des pubs, si chère aux Irlandais, devra attendre.
Alors, question téléspectateur. Quand on voit ce qui se passe en Belgique ou en Espagne, la France n'aurait-elle pas tout intérêt à fermer ses frontières un moment ? Daniel Lévy-Brulle, d'ailleurs, Jean Castex, cet après-midi à Prades, a effectivement déclaré qu'il n'était pas exclu qu'on ferme la frontière avec l'Espagne, avec la Catalogne.
Il faut bien se rappeler que les frontières sont quand même relativement fermées, même si ce n'est pas au sein des pays les plus proches. Il y a beaucoup de pays qui, pour l'instant, ne peuvent pas envoyer leurs ressortissants chez nous. Et la logique, c'est de dire que on comprend que des pays dans lesquels le virus circule de manière très intense, eh bien, nous n'acceptions pas que les gens viennent. En même temps, des pays qui ont un niveau de circulation moyen à peu près identique au nôtre, c'est difficile de justifier le fait qu'on ferme les frontières. Et on l'a bien vu, dans les pays dont on parle, il y a localement des clusters. Mais on ne peut pas dire que l'Espagne, la Belgique ou l'Allemagne soient des pays où l'incidence du virus est supérieure à celui de la France.
Donc un confinement sera forcément local. Il n'y aura plus de confinement national comme on l'a vécu en mars-avril.
Mais... On ne peut pas dire qu'il n'y aura plus, parce que en la matière, personne ne sait de quoi demain sera fait. Le confinement national, c'est bien sûr la dernière option sur la table, la pire, celle qu'on veut à tout prix éviter. Et pour l'éviter, peut-être faudra-t-il en passer par des confinements locaux, à l'instar de ce que d'autres pays ont dû faire. Donc si la situation se dégrade localement, que ce soit en Bretagne ou ailleurs, petit à petit, des mesures de plus en plus drastiques devront être mises en œuvre pour contenir la diffusion du virus.
Agnès Ricari, bon, quand le Premier ministre dit nous étudierons toutes les opportunités, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait alors confiner, non plus géographiquement, mais les populations à risque? Et donc ça veut dire, notamment, puisqu'on sait que cette maladie touche les seniors, confiner les EHPAD. Est-ce que c'est une option qui est sur la table, qui est envisageable?
En médecine, on fait beaucoup de choses en pesant le pour et le contre, avantages, inconvénients, bénéfices, risques. Le confinement des seniors provoque aussi des pathologies liées à l'isolement qui ne sont pas forcément anodines. Et donc, il y a des dépressions, il y a des gens qui se laissent mourir, il y a des prises en charge médicales pour d'autres pathologies qui ne se font pas, il y a eu quand même des conséquences à cet isolement des seniors. J'irai plus loin que les seniors, hein. Il y a des personnes fragiles qui ne sont pas forcément que des seniors. Et puis, il y a des seniors qui sont en très bonne santé et qui peuvent s'en sortir très bien. Donc, j'aurais tendance à plutôt être cas par cas et pas forcément à catégoriser un type de patient. En revanche, qu'il y ait des systèmes un peu mosaïques de prise de décision en fonction de régions où ça circule plus, et une protection des seniors, mais de façon pédagogique, des personnes fragiles, pardon, de façon assez pédagogique.
Les thermomètres montent en ce moment, pour être de façon concrète. Comment on fait dans les EHPAD? On est au cœur de l'été, il fait près de 30 degrés, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour organiser un confinement dans les EHPAD?
On a quelques inquiétudes quand même sur EHPAD, Covid plus canicule. Parce que on sait que la canicule peut entraîner une mortalité, une surmortalité importante liée à de la déshydratation, liée vraiment à l'effet canicule. Et on sait très bien ce qu'il faut faire, ce que l'on peut faire, et que ça marche.
Mais c'est-à-dire pour que le virus ne se répande pas, il faut couper la clim et couper les ventilateurs. Donc il faut accepter les 35 degrés dans les chambres.
Il faut, je crois, comme toujours, balance bénéfice-risque. On meurt beaucoup de canicule. Donc l'hydratation et le refroidissement dans des pièces qui sont refroidies, c'est clairement une priorité. Par contre, mettre en place toutes les mesures pour éviter que le Covid pénètre dans ces EHPAD et faire ce qu'ont fait les ARS pendant la première vague, c'est-à-dire une cartographie très précise de toutes les EHPAD qui étaient en difficulté pour aller amener dans ces EHPAD de l'aide avec les médecins généralistes, avec les gériatres, on a fait des missions avec le SAMU et les filières gériatriques dans ces EHPAD pour aider à l'organisation entre entre secteur Covid, pas Covid, et aux mesures de prévention. Tout ça avec ces équipes mobiles et en s'appuyant sur la médecine de ville, ça a marché. Ça a diminué la mortalité liée au Covid. On sait que ça marche aussi dans le plan bleu des EHPAD pour diminuer la mortalité liée à la canicule. Et donc, il faut réussir à mettre ces deux stratégies de prévention ensemble et éviter à tout prix les solutions de facilité qui sont, on déverse tout sur les urgences, parce que l'engorgement des urgences sur les personnes âgées, ça entraîne une surmortalité aussi.
Jean-Paul Hamon, le confinement généralisé, finalement, on l'accepte parce qu'on est tous pareils. On est tous égaux face à ce qu'on nous inflige. On a l'impression que le confinement localisé, qu'il soit géographique, en Allemagne, ils envisagent d'envoyer l'armée pour forcer les gens à rester confinés. Et de même que le confinement par tranche d'âge, c'est quelque chose qui est très mal accepté. Est-ce que ça ne va pas être compliqué de faire un confinement ciblé, finalement?
C'est très compliqué. Moi, je rajouterais EHPAD, Covid, canicule et manque de personnel. Parce que quand vous êtes obligé de mettre les personnes âgées dans leur chambre dès 17h, parce que de les faire manger à 17h, parce qu'à 18h, on passe de 5 personnes à 1 personne comme personnel, vous vous retrouvez dans des chambres qui sont hyper chaudes, et là, ça aggrave les situations. Donc ça, dans les EHPAD, c'est vrai que la canicule, ça n'arrange pas les choses. J'aimerais pas être gouverné en ce moment, parce qu'ils sont entre le fait de ne pas affoler la population et de prendre les mesures nécessaires pour éviter le confinement. Regardez ce qui s'est passé en Mayenne. Moi, le 10 juillet, quand j'ai eu Luc Duquesnel, celui qui avait monté ses centres de Covid en Mayenne et qu'il y avait 200 cas, j'ai mis un SMS à Olivier Véran, à Katia Julienne et à Nicolas Revel pour leur dire, écoutez...
Toutes les autorités de santé.
Et en Mayenne, on est limite confinement. Et Luc Duquesnel me disait mais si on ferme, si on confine la Mayenne, si on interdit aux gens de sortir maintenant alors qu'on est à la veille d'un grand week-end où beaucoup de gens sont prêts à partir, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas confiné, on est passé de 200 à 460 cas 7 jours plus tard. Donc, certes, on a beaucoup testé, certes, tous les gens ne sont pas symptomatiques, mais on voit bien que ça grimpe. Et là, maintenant, on est dans une situation critique.
Donc, vous comprenez que la ville de Barcelone demande aux gens de rester chez eux et les interdisent de quitter la ville.
Alors, j'avais noté quand même qu'à Barcelone, ils avaient ouvert les discothèques. Alors, les discothèques, là, c'est quand même un lieu où quand même on chante, on danse, on est près les uns des autres, et c'est l'endroit idéal pour se contaminer. Donc, en France, heureusement, les discothèques, et je m'excuse auprès des représentants des discothèques, mais les discothèques, c'est quand même un endroit qu'il faut maintenir fermé. En ce moment.
Et Karine Lemarchand, un mot sur, quand même c'est très compliqué, on voit que la rentrée se prépare et on nous explique, le gouvernement nous explique qu'il va falloir se préparer à l'idée qu'on va retourner là, avec ces écoles à distance, etc. Est-ce qu'on ne va pas faire une génération qui fera qui aura une scolarité à mi-temps?
Je crois que c'est pas pareil d'avoir un plan où on est préparé au cas où on est vraiment une reprise épidémique importante et l'application effective de ce plan. Je pense qu'on a plutôt intérêt à montrer qu'on est préparé, à être effectivement préparé, sans pour autant affoler tout le monde et dire on prépare parce que ça va forcément se passer comme ça. Comme disait tout à l'heure Daniel Lévy-Brulle, la dynamique de l'épidémie dans les mois à venir, on ne sait pas. Personne ne sait de quoi demain va être fait. Donc, je pense que c'est plutôt, ça va plutôt dans le bon sens de préparer les choses, d'avoir un plan bien prêt de façon à dérouler très vite le plan en cas de reprise épidémique, plutôt que d'être comme on a été au tout début il y a plusieurs mois, sans vraiment que les choses soient prêtes, mais parce que on ne pouvait pas être prêt, puisque c'était un phénomène qui était entièrement nouveau. Donc, il ne faut pas faire de procès aux autorités maintenant quand elles disent qu'elles préparent les choses. Au cas où on doit les appliquer après. C'est plutôt du positif, je trouve.
Mais Daniel Lévy-Brulle, on a tous bien compris que cette épidémie, elle ne disparaîtra pas d'elle-même.
Il faut avoir ça en tête. Exactement. Le virus, il est là. Il n'a aucune raison de disparaître spontanément. Peut-être que les beaux jours vont diminuer un petit peu sa circulation. Mais ce qu'on sait des virus pandémiques, c'est qu'ils sont très peu sensibles aux conditions météorologiques. Ce n'est qu'au bout de quelques années, quand ils ont un peu perdu de leur nouveauté, donc de leur virulence, qu'ils finissent par devenir saisonniers, c'est-à-dire à disparaître, par exemple, l'été. Il ne faut pas penser que parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, le virus va disparaître. Et à part un vaccin, qui est quand même l'espoir auquel tout le monde se raccroche, on ne voit pas pourquoi ce virus arrêterait de circuler.
On finira par en trouver un de vaccin.
Oui, je pense qu'on finira par en trouver un.
Mais quand, est-ce qu'on peut dire en ce moment que, paradoxalement, l'Europe, là, on se plaint, mais nous sommes presque la région protégée du monde. Quand le directeur général de l'OMS dit « trop de pays vont dans la mauvaise direction, le virus reste l'ennemi public numéro un », est-ce qu'en ce moment, à un moment, nous étions le centre mondial du virus ?
Oui, on ne l'est plus.
On ne l'est plus.
C'est vraiment le continent des Amériques, aussi bien Amérique du Nord qu'Amérique du Sud, qui est maintenant le plus touché, avec des dynamiques épidémiques très impressionnantes. Mais peu importe.
Ils sont encore dans la première vague, mais on peut le redevenir.
Et on voit que certains pays, après la première vague, il y en a peu, mais certains sont rentrés dans une deuxième vague. Par exemple, l'Iran a eu une vraie première vague et maintenant une vraie seconde vague. Juste revenir sur la question des enfants, juste pour dire que les données qui commencent à s'accumuler de beaucoup de pays, pas uniquement en France, sont rassurantes sur le risque qu'il y a à laisser ouvert les écoles pour les petits-enfants. Je ne parle pas des lycées ou des universités, parce qu'il y a très probablement une grande différence. Mais ce qu'on voit, c'est que les enfants se transmettent peu entre eux le virus. Que
c'est 14 ans, donc.
Voilà. Que c'est plutôt les adultes qui transmettent aux enfants. Que c'est très rarement l'enfant qui est le premier cas dans un foyer.
Parce que comme disait Agnès Ricaribon, y a toujours risque inconvénient. Enfin, on peut pas avoir une génération de décrocheurs.
Exactement.
Alors, le gouvernement a incité donc les Français à privilégier les vacances dans l'Hexagone cet été. Les professionnels du tourisme doivent s'adapter, eux, à une affluence incertaine et au respect des mesures sanitaires. C'est le cas notamment dans les campings. Pierre Barbin et Maxime Liogier ont suivi l'installation de vacanciers près d'Etretat, en Normandie.
Tu vas tirer avec moi ?
Premier jour de vacances pour la famille Steinberger. Et cette année, ils ont choisi de planter leur tente en France.
Je ne sais plus exactement combien on a fait de pays, mais je dirais 7 ou 8.
Cette année, ils découvrent la France comme vous.
Voilà. Du moins la Normandie.
Contexte sanitaire oblige, ces Alsaciens ont décidé de rester sur le territoire français.
On sait qu'il y a eu quelques endroits, notamment en Espagne, ou en Allemagne aussi, j'ai entendu. Il y a des endroits où ça se reconfinait. On voulait peut-être pas prendre le risque de se retrouver, pas forcément bloqué, mais où les musées ferment, où on peut finalement pas visiter grand-chose.
Des vacances au camping, à l'air libre. Un gage de sécurité et de liberté pour ces touristes.
On est déjà venu dans la région à Pâques, mais pour l'été, on avait d'autres projets qui sont tombés à l'eau. C'est le plus facile parce qu'on, même si les frontières se referment, on peut retourner en voiture. Il n'y a pas de problème de rester coincé.
Quand on a été confiné en appartement, on apprécie d'être à l'air libre. Et c'est pour ça aussi qu'on est venu profiter quand même, malgré la situation.
Pour rassurer ses clients, la directrice de l'établissement a donc revu toutes les règles sanitaires. Notamment dans les parties communes.
Habituellement, il n'y a pas de sens de circulation, mais là, on entre obligatoirement par cette porte-là et on sort par celle-ci. Bon, l'idée, c'est d'éviter de croiser sans arrêt d'autres personnes. À plusieurs endroits du camping, dans les sanitaires, les toilettes de la piscine, etc. En fait, on a mis de l'essuie-tout jetable et du virucide.
La famille Steinberger a donc dû se plier aux règles. Pour faire la vaisselle, un évier sur deux est condamné et le port du masque est obligatoire.
C'est surtout dans les parties communes. À l'extérieur, on se passait du port du masque. Mais bon, en dehors d'ici, on le porte aussi, donc ça ne change pas d'habitude.
S'adapter à la situation et au contexte. Mais pour les enfants, la tâche est complexe.
Déjà, on se sent un peu moins libre. On ne peut plus respirer de la même façon qu'avant.
Mais tout de même, on réussit à faire la vaisselle.
Bah oui.
À l'extérieur, les jeux aquatiques et la piscine restent ouverts. Seule la distanciation physique d'au moins 1 mètre doit être respectée. Malgré ces précautions, le camping ne fait pas le plein. Cette année, les vacances se font autrement. Certains campeurs arrivent à la dernière minute.
On voudrait rester au moins une nuit.
Bien sûr. Comment avez-vous connu le camping ?
On est passé devant ce matin par hasard.
Ok.
D'habitude, en cette saison, les emplacements sont pris d'assaut. Pour autant, avec la crise sanitaire, la directrice n'a pas voulu se séparer de ses 5 saisonniers.
On a gardé le même personnel parce que on est obligé d'avoir du personnel qui soit disponible tout de suite. Et puis, on est obligé de procéder à des désinfections beaucoup plus régulières. Donc oui, on a besoin d'autant de personnel que si on était pour une saison normale.
La famille Steinberger prépare son programme pour les 10 jours à venir, de la côte normande jusqu'à la Bretagne.
Qu'est-ce que vous voudriez faire en Normandie ?
Il n'y a pas des plages.
Si.
Fidèles au camping, ils traverseront la France étape par étape et s'arrêteront toujours dans l'un des 8300 établissements de l'Hexagone.
Alors, question téléspectateur, la bise survivra-t-elle au Covid-19 ? Daniel Lévy-Brulle, elle est à proscrire, la bise, les embrassades ? Bien sûr.
Oui, aujourd'hui, il faut rester dans l'idée que ça fait partie des mesures barrières qu'on est contraint d'appliquer. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, il faut continuer à l'appliquer. Et on voit d'ailleurs, dans les études que nous menons régulièrement, pour voir quelle est l'évolution de l'adhésion des Français aux différentes mesures barrières, arrêter de se serrer la main et de se faire la bise. 90% des Français disaient qu'ils le faisaient systématiquement au moment du déconfinement. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 70%.
Ah oui, donc on se fait moins la bise. Agnès Ricaribon.
On se fait plus la bise.
On se fait plus la bise, oui. Oui. Agnès Ricaribon, sur le port du masque, est-ce que vous avez des difficultés pour l'imposer, par exemple, dans votre service ou la bise est-ce que...
Alors, pendant toutes les épidémies de grippe, moi, je me suis battue dans mon service pour qu'ils arrêtent, effectivement, de se faire la bise et de se serrer la main. J'avais un mal fou. Là, bon. Sur la Covid, maintenant, ça y est, ils ont arrêté de se faire la bise et de se serrer la main. De temps en temps, on voit des ébauches, mais le message est bien passé. Mais vis-à-vis des jeunes, là, on a beaucoup plus de mal, les accolades, la bise... dire bonjour de loin à l'Asiatique a du mal encore à passer et je crois que là il faut toujours continuer à être pédagogique.
Et alors sur le port du masque, on va révéler un petit secret pendant le sujet, vous me disiez qu'il était genré le masque, que les femmes acceptaient plus volontiers, vous me racontiez vos vacances.
Moi j'ai été frappée, effectivement j'étais dans un parc d'attractions où c'était très bien organisé, il y a du gel partout, les personnels rappelaient le masque dans toutes les tribunes, mais les femmes portaient beaucoup plus le masque et correctement le masque, c'est-à-dire pas au niveau du cou, que les hommes, les pères de famille.
Il faut pas le porter comme ça.
Voilà, celle-là, ça ne sert à rien. Voilà. On respire le virus qui est sur le masque.
Il faut être sur le nez.
Donc, il faut vraiment le mettre sur le nez. Et les pères de famille, quand les pères de famille, les enfants, enfin, toute la famille avait le masque, mais sinon, les femmes portaient beaucoup plus le masque que les hommes. Ça m'a frappé.
Ouais. Karine Lacombe, c'est quand même très difficile de ne pas se faire la bise, de porter le masque au sein des familles. C'est compliqué quand même, tous ces gestes barrières au sein, avec ses grands-parents, etc. Et alors, on voyait des piscines, par exemple. Est-ce que ça aussi, c'est un lieu de propagation ou aller à la plage, etc. Est-ce que ce sont des lieux...
Après, alors, la plage, franchement, on est en plein air, à moins d'être vraiment... très très serrés les uns contre les autres. En général, les plages, on a quand même de l'espace, on est en plein air, etc. Le risque est faible. Après, voilà, il faut garder toute proportion. C'est déjà, si on applique vraiment bien le port du masque dans les espaces clos publics, et que quand on a des symptômes, et en particulier au sein des familles ou au sein des collectivités, on se fait dépister, on va quand même pouvoir impacter de façon très importante sur la dynamique épidémique.
Est-ce que c'est quand même pas l'occasion cet été d'aller passer ses vacances dans des régions très aérées, avec moins denses, je pense à l'Auvergne, oui. Au Jura, à la
montagne,
Lorraine.
Oui, la montagne, oui, bien sûr, absolument. On est nombreux d'ailleurs à aller en vacances en montagne. Donc j'incite tout le monde à penser à la montagne en été. C'est aussi un changement culturel qu'on va pouvoir amorcer.
Sauf que paradoxalement, Jean-Paul Hamon, il paraît qu'il y a très peu de gens qui vont dans le Grand Est, qui est aujourd'hui une région où le virus circule peu, parce que précisément, on associe le Grand Est... au Covid, puisqu'effectivement, c'était en mars-avril la région la plus touchée de France.
Moi, je ne ferai pas d'infidélité à ma Bretagne. Et je peux vous dire qu'après-demain, je serai à Belle-Île et personne ne m'en détournera.
Vous êtes tous là, et je vous remercie. Vous êtes tous donc du personnel médical, soignant. Est-ce que cet été, vous allez peu prendre de vacances parce qu'il faut être sur le pont ?
dans vos services, vous leur demandez de rester?
On prend des vacances, oui, mais on est joignable. Et en particulier, quand on est chef de service, on est potentiellement rappelable. Sur les vacances, je dirais que c'est l'occasion de découvrir la campagne.
Daniel Lévy-Brulle, toute la communauté scientifique ne travaille plus que sur cette histoire de Covid et ne prend plus de vacances?
C'est certain que dans mon équipe, et pas que dans mon équipe, depuis janvier, nous sommes sur le pont 24 heures sur 24, pratiquement, en tout cas tous les jours, oui. Pour nous, c'est une obsession parce que l'enjeu, il est extrêmement important. Il est médical, il est sociétal, il est économique. Voilà, c'est un événement exceptionnel qui mérite que nous nous mobilisions sans retenue.
C'est ça qui est fascinant dans le monde scientifique, c'est qu'il y a beaucoup de coopération. Pourtant, vous êtes en compétition les uns les autres. On pourrait s'imaginer que vous fassiez de la rétention d'informations. Pas du tout, on partage l'information, quitte à livrer ses petits secrets, quoi.
Oui, mais d'abord, c'est un état d'esprit, je crois, qui est pas dicté par la nécessité ou par un calcul. Je crois que la communauté scientifique, elle a appris qu'elle a toujours intérêt à partager. Et puis, bien entendu, plus on partage, plus on bénéficie aussi de ce que les autres ont généré comme nouvelles connaissances. Donc, tout le monde y trouve son intérêt.
Et on partage aussi bien... Est-ce qu'on partage entre Européens? Au fond, il y a une habitude de travailler ensemble, où on partage aussi bien avec des scientifiques chinois, avec des scientifiques américains, japonais, etc.
On aimerait pouvoir partager avec des scientifiques du monde entier. Après, c'est parfois plus difficile parce qu'il n'y a pas forcément un esprit de partage dans tous les pays, dans tous les continents. Mais oui, la connaissance, elle est universelle ou elle n'est pas.
Eh bien, écoutez, on souhaite qu'elle aboutisse au plus vite en tous les cas. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Le port systématique du masque est-il la solution miracle contre le coronavirus? Jean-Paul Hamon, est-ce que vous diriez que c'est le geste barrière numéro un?
Oui, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vivre heureux, vivons masqués en ce moment, c'est ce qu'il faut absolument faire et se laver les mains. Et se laver les mains quand on touche son masque. Avoir une petite fiole de gel, d'accord, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué les gens qui ne savaient pas porter les masques. En fait, le masque, si vous le touchez, ce n'est pas grave, si vous vous lavez les mains derrière.
Est-ce que vous faites les gros yeux, par exemple dans le bus, quand vous voyez des gens qui ne portent pas le masque, et vous comprenez qu'il y a des scènes de tension qui peuvent dégénérer?
Alors, je ne prends pas le bus, mais je fais la guerre dans les boutiques où je vais. Et ce matin, dans ma boulangerie, la boulangère avait pourtant affiché masque obligatoire, et les deux personnes qui étaient devant moi n'avaient pas de masque.
Donc on comprend qu'il y a des tensions qui se créent.
Oui, absolument. Absolument.
Devra-t-on bientôt masquer nos enfants? Karine Lacombe.
Alors, c'est déjà un sujet qu'on a abordé un peu plus tôt sur le.
Et à l'école,
la façon
par exemple,
dont
il faudrait.
Vraiment, les enfants, on a bien. Et c'est ça, on a vraiment plusieurs études en Italie, en France, si on veut rester sur le. Et en Angleterre, si on veut rester sur le continent européen. Les enfants transmettent pas, très peu. En revanche, les enfants sont contaminés par les adultes et guérissent très vite. Donc non, je pense qu'il n'y a aucune raison de masquer les enfants, en particulier les tout-petits, parce qu'on sait que vraiment le processus éducatif, la socialisation des enfants passe beaucoup par les expressions du visage et ce serait très dommage de les priver de cette interaction-là. Donc non.
Le masque devient obligatoire. Pourquoi n'en est-il pas de même pour les tests, Daniel Lévy-Brulle? Alors, je crois que le gouvernement, d'ailleurs, va supprimer la nécessité d'avoir une ordonnance. Hein. On va pouvoir librement faire. Mais on ne teste pas assez en France. Il y a d'autres pays qui testent davantage et qui en tirent un bénéfice en termes d'épidémie.
En tout cas, on a des capacités de test supérieures à ce qui est aujourd'hui utilisé. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on ne teste pas suffisamment parce que nos enquêtes ont montré que une grande proportion des gens qui ont des symptômes ne se font pas tester.
Donc, pourquoi ne pas le rendre obligatoire, donc, comme disait le téléspectateur?
On en a parlé, je crois que l'obligation n'est pas forcément la solution à tout. Il faut expliquer aux gens, si les gens ne veulent pas se faire tester, c'est qu'ils ont des raisons. Autant le masque dans l'espace public, on peut intervenir en disant « vous devez mettre un masque », autant on ne va pas aller dans chacun des domiciles, vérifier que la personne a ou non des symptômes et qu'elle est allée se faire tester. Donc on voit bien qu'il serait extrêmement difficile de mettre en œuvre une obligation qui irait jusqu'à l'intimité de chaque individu.
Oui, Karine.
Juste pour compléter ce que vient de dire Daniel à propos des tests, ce n'est pas tant rendre obligatoires les tests que faciliter la procédure de test. On a tout ce qu'il faut en termes de kit de tests. Maintenant, il faut faciliter l'accès aux tests, qu'il y ait plus de ressources humaines.
Dans les labos.
Déjà, exactement. On est déjà sur le bon chemin, puisqu'avant, il n'y avait que les médecins et le personnel non médical, en particulier les infirmiers et infirmières qui pouvaient faire les tests. Maintenant, les techniciens de laboratoire peuvent le faire. Peut-être qu'il faut encore plus démocratiser le maniement de ces tests. Et puis, faire qu'il y ait plus de structures qui puissent faire ces tests. Et par exemple, on va très rapidement avoir les tests rapides.
Donc on sait,
tests rapides.
Parce que là, c'est
2 à 5 jours
hein, pour avoir la réponse.
Alors, donc ça c'est pour les anticorps, hein, les tests rapides pour les anticorps. Après, les tests salivaires, une fois qu'ils seront disponibles, ça va quand même également faciliter la procédure.
La hausse du taux de reproduction du virus dans plusieurs régions est-elle due à des comportements irresponsables, au recul des gestes barrières ? Agnès Ricaribou.
Alors moi, je ne dirais pas forcément irresponsable, parce que je crois qu'il vaut mieux faire de la pédagogie plutôt qu'essayer de culpabiliser, parce que quand on essaye de culpabiliser, ce n'est pas ce qui marche le mieux. Qu'il y ait un relâchement des mesures barrières, la réponse est oui. Et ce que je disais tout à l'heure sur la population plus jeune qui se sent moins concernée, effectivement, il faut multiplier les méthodes pédagogiques. Mais que le virus reprenne, ce n'est quand même pas complètement une surprise. On savait qu'au moment du déconfinement, le virus n'ayant pas disparu, ben forcément, il allait reprendre à avoir des signaux. Simplement, il faut réussir vraiment, ce que disait mon collègue là, le fait de dépister, tester, isoler et repérer ces chaînes de contamination. Et la clé du succès, elle est vraiment là, pour éviter de se retrouver dans des situations comme la Mayenne où ça devient difficilement contrôlable.
Ben justement, Bretagne, Seine-Saint-Denis, PACA, pourquoi ne pas reconfiner localement et ponctuellement ? C'est ce qui leur pend au nez, Daniel Lévy-Brulle ?
C'est une option qui est sur la table et qui va bien sûr dépendre de l'évolution dans les prochains jours. Oui.
La Catalogne hein, a dit que là, donc, c'est le confinement est local, il est pas, on a le droit, si c'est... On a le droit de sortir pour des raisons indispensables, mais ils disent que c'est la dernière chance avant des mesures plus drastiques.
Il y a toute une échelle, toute une gamme de mesures de plus en plus fortes qui vont être prises progressivement.
Alors c'est quoi l'échelle ?
Ou pas prise, si effectivement.
Ça veut dire quoi un reconfinement local ? Donc c'est au début, on est invité à rester chez soi.
Voilà.
Après, on est interdit de sortir.
Ça pourrait être ça, exactement. Avec fermeture des lieux de spectacle, fermeture des lieux de sociabilisation. Voilà, il y a toute une gamme de mesures qu'on peut imaginer qui reprennent en partie ce qu'on a connu entre février et mai. Et bien sûr, ce sont des décisions locales. Donc après,
quel est le déclencheur ? C'est les hôpitaux pleins ou c'est un R0 qui, je sais pas, qui atteindrait 8 ou 9 ?
Ah, c'est certainement pas les hôpitaux pleins. Parce que
là, c'est trop tard.
C'est trop tard.
Voilà.
Bien entendu. Donc c'est effectivement le R, mais le R, c'est juste un élément parmi d'autres. C'est le nombre de nouveaux cas, la vitesse avec lequel les cas augmentent et doublent. C'est le fait qu'on trouve des cas dans la communauté sans lien avec le cluster d'origine. Parce que là, ça veut dire que le virus est en train de diffuser, on ne sait plus très bien où il est.
Le cluster devient incontrôlable.
Voilà.
C'est ce que dit d'ailleurs Barcelone. Hein.
Exactement.
On ne contrôle plus les foyers.
Voilà.
Les régions les moins touchées par la première vague sont-elles les plus à risque aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une carte de France inversée par rapport à mars-avril, est-ce que c'est une impression ? Est-ce que ça peut s'expliquer scientifiquement ?
Alors, on n'est quand même pas du tout dans la situation où on était en mars-avril. Hein. Comme on a expliqué au tout début, ce n'est pas parce que, par exemple, en Mayenne ou en Bretagne, on a une augmentation importante de ce R que le virus circule de façon sauvage et à un niveau important sur l'ensemble du département. Il suffit qu'il y ait 2-3 clusters assez importants, mais tout de même qu'on peut identifier pour faire augmenter ce R. Donc, il faut faire attention.
Mais les régions touchées sont les régions côtières, alors qu'avant, c'était le nord-est.
Oui, alors après, un endroit où il n'y a jamais eu de première vague, évidemment, l'immunité de la population est quasi nulle, et donc le virus peut mieux prendre et peut mieux se diffuser. On n'a plus de barrière naturelle à la propagation du virus. Donc oui, ce n'est pas étonnant.
Est-ce qu'il y a des régions, d'ailleurs, qui vont approcher là, cette fameuse immunité de groupe, qui arrive à combien, d'ailleurs ? C'est combien, Daniel Lévy-Brulle ?
Avec des modèles très théoriques, ça serait de l'ordre de 60 à 65%.
Il faut que 65% de la population
soit... Ça, c'est des modèles un peu simplistes, un peu théoriques.
Et eu le Covid pour que le Covid disparaisse de lui-même.
On pense que ça peut être dans la réalité un peu moins parce que les modèles font des simplifications. Mais en tout cas...
On en est très loin.
On en est très loin. C'est probablement pas avant autour de 50%. Il n'y a aucune région aujourd'hui qui approche de ce seuil. Hein. Au pire ou au mieux, je ne sais pas comment le dire, on serait autour de 15 à 20%. Et juste pour terminer, à contrario, il ne faut pas penser qu'une région qui a été fortement touchée lors de la première vague serait préservée. Je prendrai juste comme exemple l'Île-de-France, qui a été fortement touchée lors de la première vague, ouais, et qui fait partie des régions sur lesquelles nous exerçons une vigilance très forte actuellement.
Un nouveau confinement serait-il vraiment respecté par les Français, Jean-Paul Hamon, votre sentiment là-dessus, par les Gaulois réfractaires,
comme disait, je pense que ça, c'est une chose qu'il faut absolument pas envisager, parce que sinon ce serait vraiment une catastrophe. Je pense que
pour l'économie, pour le moral,
l'économie s'effondrerait, le moral, je vous en parle pas. Dans les EHPAD, on a bien vu les catastrophes, les syndromes de glissement, des gens qui se sont laissés mourir de ne pas avoir vu leur famille, etc., et qui sont morts de ça plus que du virus. Non, franchement, la nécessité d'agir rapidement, hein, ce qui s'est passé en Mayenne, quand même, on est passé de 200 à 460 là, en quelques jours, montre qu'il faut agir rapidement. Avoir 10 jours pour tester quelqu'un de positif, hein, de quelqu'un de symptomatique, c'était totalement scandaleux, quoi. Il faut vraiment réagir beaucoup plus vite que ça. Et je pense sincèrement qu'il faut absolument qu'on respecte les mesures barrières, que le dire, porter les masques, c'est quelque chose de fondamental.
De fermeté dans l'application.
Écoutez,
des règles.
Si les Français ont envie de se reconfiner, eh bien, qu'ils ne portent pas de masque, que les gens qui ont été en contact avec des gens positifs ne se fassent pas tester, pour moi, c'est un pur scandale.
Ne devrait-on pas remettre en place la limitation des 100 km afin de limiter la circulation du virus, Karine Lacombe, c'est sûr que là, en ce moment, avec le tourisme, enfin avec les vacances, on se déplace et donc on déplace le virus.
Alors, écoutez, franchement, on n'est plus dans la situation de mars-avril. On a les masques, on a le gel hydroalcoolique, on connaît les mesures barrières, on a les tests. Si déjà on met le masque dans les endroits où il faut, qu'on se lave bien les mains et dès qu'on a des symptômes, on se fasse tester, ou quand on a été en contact avec quelqu'un qui a des symptômes, on accepte même quand on n'est pas du tout malade de se faire tester, je pense que ces mesures devraient permettre de ne pas réinstaurer ces mesures de 100 km, d'avoir le certificat, etc.
Surtout, on a vu que les gens qui avaient fait la grande migration lors du confinement n'avaient pas déclenché d'épidémie.
Sur l'île de Ré, etc.
Ils sont allés d'un point à un autre et une fois qu'ils ont été d'un point à un autre, ils ont respecté les mesures barrières, ils sont confinés et il n'y a pas eu d'épidémie.
Bon, il reste 10 secondes. Nos hôpitaux sont-ils prêts à faire face à une seconde vague ?
Oui, non, c'est terminé. On sait ce qu'il faut faire.
Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi et bonne soirée sur France 5.